Alors, on a déjà vu que le prérequis au service, c'est qu'on doit offrir nos corps. Offrir nos corps, ça veut dire offrir nos mains, nos yeux, nos oreilles, notre bouche. Seigneur, peux-tu faire quelque chose avec ces deux mains-là? Et quelque chose qu'on peut faire avec nos deux mains, c'est semer une petite semence. Hein? Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le met au service des autres. C'est comme ça que l'Église fonctionne. Lorsque chaque personne, Dieu vous a donné des talents, vous a donné des choses spéciales à accomplir. Et on a déjà vu ça. Seigneur, peux-tu faire quelque chose avec ma bouche? Peux-tu faire quelque chose avec mes mains? Quand on parle de service, on parle de serviteur, on parle surtout du cœur. Hein? Pas nécessairement de ce qu'il fait, mais de l'esprit avec lequel il le fait. Un esprit de service, qui est différent d'un esprit de servitude. Hein? Vous savez, Paul mentionne l'esprit de servitude. Différence entre les deux. L'esprit de servitude, la motivation, c'est le fouet. La motivation, c'est la condamnation. La motivation, c'est la peur, le châtiment. On est forcé, on doit faire des choses, on est obligé de faire des choses sans que le cœur soit là. On est comme un robot qui exécute des tâches. Ça, c'est l'esprit de servitude. Mais nous ne sommes plus dans cette façon-là de faire l'œuvre du Seigneur. L'esprit de liberté. L'esprit de, c'est drôle, hein? C'est paradoxal. L'esprit de serviteur, c'est la liberté. Juste cette pensée-là à méditer. Servir, c'est être libéré. Libéré de soi, premièrement. Libéré de performer. Libéré de contrôler. Libéré de compétitionner. Alors, il y a plein de bonnes choses à apprendre de ce côté-là. Et quel est le modèle par excellence? Jésus. Et vous vous souvenez, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il est allé au bout. Hein? Il les a aimés au bout. Il savait il savait qu'il allait être livré, qu'un de ses amis, compagnon de route pendant 3 ans, Judas allait le livrer, allait le trahir. Il savait ça. Il savait aussi que son père avait remis toutes les choses entre ses mains. Ça veut dire que, « OK, mon fils, tu fais ce que tu veux. » Et le fils a répondu, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Alors, il y avait le pouvoir de dire oui, le pouvoir de dire non. Il y avait un choix à faire. Il sait que tout pouvoir, et là, il se lève parmi les 12, il attrape Judas par le cou, puis toi, mon écœurant, je sais ce que tu vas faire, je sais ce que tu vaux, hein? Et puis, il prend, puis il jette dehors, puis il condamne devant tout le monde avec un bon coup de pied au bon endroit. Hein? C'est pas votre version. C'est peut-être notre version charnelle. Hein? C'est ce qu'il méritait. Qu'est-ce que Jésus il a fait? Il s'est levé de table, il a ôté ses vêtements, il a pris un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge. Moi, j'aime cette photo-là. Regardez la face des apôtres, là. Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire là? Et il n'est pas préoccupé. Il s'en va à la croix, là. Hein? C'est la veille ou l'avant-veille. Alors, il s'en va être livré, il s'en va, il va être trahi. Et puis, sa préoccupation, c'est quoi? Lui-même? Non? Ses disciples. Sa préoccupation au bout, c'est aimer ses disciples. Une démonstration de qui il est, une démonstration de qui il devrait être aussi. Comment il devait, parce qu'il allait exercer ensuite la direction de l'Église. Et Jésus a dit, voici ce que, comment on peut faire ça. Voici un modèle, voici le modèle du maître. Et c'est assez frappant comme illustration, parce que laver les pieds, à l'époque, aujourd'hui, on enlève nos claques, on enlève nos bottes d'hiver, et c'est un peu l'idée qu'on ne pouvait pas rentrer dans la maison parce que dans ce temps-là, on marchait pieds nus la plupart du temps, et il y en a qui avaient des sandales aussi. Alors, imaginez marcher dans la rue, sur le sable, et puis tu avais les pieds tout sales, les pieds crottés, en guillemets. Et puis là, tu rentrais dans la maison, et puis, ou si tu avais des sandales, tu les laissais à la porte. Là, tu rentrais dans la maison, et puis c'était la responsabilité de l'hôte de pouvoir un bassin pour laver les pieds. Hein? C'était sa responsabilité. Si vous vous souvenez que ce que Jésus a dit à la femme pécheresse ou aux pharisiens qui le recevaient, il dit, tu vois cette femme, eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu n'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Ce qui était la moindre chose à faire, la moindre marque d'estime, d'honneur, de reconnaissance pour un autre, de respect, je pourrais dire, c'était de fournir de l'eau pour laver ses pieds. Et tu n'as même pas fait ça. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lavé les pieds du Seigneur de ses larmes et elle les a essuyées avec ses cheveux. On peut s'imaginer la scène un petit peu. Et Jésus, je pense qu'il y a une certaine... il n'est pas fâché, mais je dirais qu'il est déçu. Qu'il est venu si proche, il est venu dans la maison de ce pharisien-là, de cet homme-là, et cet homme-là n'a pas reconnu du tout qui il était. Venir si proche du Seigneur et ne pas le reconnaître, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Il y a des gens qu'on connaît, vous savez, des gens qui nous ont fréquentés, des gens qui, même dans ma famille, des gens qui sont venus tellement proches du Seigneur, tellement proches, même qui ont marché un petit peu avec. Et puis finalement, ils ne reconnaissent pas. Ne le reconnaissent pas pour qui il est. Ça, c'est triste. C'est vraiment décevant. Pas pour nous, pas pour le Seigneur, mais pour eux. Hein? Alors, c'était à l'époque un esclave qui faisait ça. Un ouvrier moderne. Hein? À ce moment-là, il y a des esclaves qui étaient mieux traités que bien des ouvriers. Et l'esclave, c'était le rang le plus bas. C'était au niveau de la femme et des enfants, à l'époque. Alors, ce n'était pas d'esclave, c'est la femme ou les enfants qui lavaient les pieds. Et c'était une des tâches les plus humbles, les plus basses dans une maison. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste? Vous vous souvenez ce que Jean-Baptiste a dit quand Jésus est venu se faire baptiser par lui? Je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses sandales. Et évidemment, c'était pourquoi est-ce qu'on faisait ça? C'était pour laver les pieds. Alors lui, il n'était même pas digne de délier la courroie. Jean-Baptiste utilise cet acte-là de laver les pieds comme la tâche la plus basse qu'un serviteur peut accomplir, ou une des plus basses, qui a le moins de mérite. Alors, c'est drôle parce que Jésus commence à laver les pieds de ses disciples, puis il n'y a personne qui dit rien. Ils sont sous le choc, je pense. Et il y en a juste un, la grande gueule de la gang, là, Pierre, qui est toujours le premier pour dire de quoi, n'importe quoi, mais il faut qu'il dise de quoi, puis il réfléchit après. Mais comment est-ce que le Seigneur comment est-ce que le Seigneur, le Christ, le Messie, le Roi qui s'en vient, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ça ne rentrera pas dans leur imagination, dans leur projet non plus. Le Messie, là, le Sauveur du monde, le Roi des rois, celui qui allait prendre le trône et puis qui allait régner puis renverser tous les ennemis. Et puis eux autres, ils allaient être assis avec lui sur le trône. Qu'est-ce qu'il fait là? Et Pierre, c'est Pierre qui, vraiment, qui lui dit, « Seigneur, tu me laves les pieds. Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? » Et il dit, « Non, jamais tu vas me laver les pieds. » Alors, il a osé protester parce qu'il ne comprenait pas ce que le Seigneur allait faire là. Et quelle était la réponse du Seigneur? Pierre, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et aussitôt, Pierre a répondu, pas juste les pieds, Seigneur, mais encore les mains, puis la tête, puis vas-y. La douche au complet. Et Jésus dit, OK, calme-toi, Pierre. tu es déjà pur. Et en marchant dans le monde, tu as ramassé un petit peu de poussière, mais tu as juste besoin de te laver les pieds tous les jours. Un peu une image de notre position en Jésus-Christ. On est déjà pur. On a besoin continuellement du pardon de Dieu à tous les jours, de se laver à tous les jours. Mais ce que Jésus voulait dire à Pierre, c'est ce que je fais là, c'est juste en vue de un acte qui s'en vient dans quelques heures, qui ressemble à celui-là. Mais imaginons-nous Jésus qui est à genoux. Juste un instant. Imaginons que Jésus est ici. Il se présente. On a une révélation de qui il est, et puis il s'en va prendre un bassin d'eau, puis il dit, je vais vous laver les pieds, je vais me mettre à genoux, ou en tout cas, à terre, et je vais vous laver les pieds. On a une petite idée de ce que les apôtres et Pierre ont pu ressentir. Dieu agenouillé devant sa créature. C'est quelque chose qu'on, je pense qu'on ne peut pas saisir, toute l'ampleur. Jésus qui est venu pour nous laver. Là, il l'a fait physiquement, mais c'est un lavement de cœur que Jésus a effectué. Il a lavé nos cœurs. Et pour ça, il devait se faire serviteur. Il devait mourir sur la croix. Il devait être la personne la plus humble, tout en étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tout en étant Dieu, qui a pris la forme d'un serviteur pour mourir sur la croix. Alors, juste gardons cette semaine cette image-là de Jésus qui vient pour nous laver les pieds. Alors, Pierre, il y avait une leçon pour Pierre. Il y a une leçon aussi pour les autres disciples. Si moi, qui est le Maître et Seigneur, puis c'est vrai, je le suis, et vous dites bien que je le suis, vous avez raison de déclarer que je suis Maître et Seigneur. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jésus n'a pas nié sa position, il n'a pas nié qu'il était dans une position d'autorité, qui est une position élevée, c'est incontesté. Et il dit aux disciples, « Qui êtes-vous pour ne pas faire ce que votre maître fait? Qui est-ce que vous êtes pour vous élever? » C'est dans la nature d'un disciple, c'est dans la nature d'un enfant de Dieu, c'est dans la nature d'un serviteur d'être humble. La définition d'un apôtre, d'un pasteur, d'un chrétien, c'est dans notre nature, le portrait qu'on a là. C'est ça, un chrétien. C'est ça, un pasteur. Et Francis va être d'accord, c'est ça, un directeur. Hein? C'est notre modèle. Et c'est toute une leçon. Toute une leçon. Ne vous élevez pas au-dessus des autres, mais élevez les autres. Vous savez, Jésus, c'est ce qu'il va faire avec son épouse. Nous allons régner avec lui. On va être assis sur des trônes, mais on va régner avec Christ. Jésus élève, il garde son âme. Il garde son autorité, il garde sa position, mais il élève les autres personnes. Et il y a une nécessité de laver les pieds. Est-ce que quelqu'un a déjà pratiqué ça? Ça se peut. Il y a des églises qui le pratiquent, qui en ont fait un rite ou un sacrement qui est comme le baptême. Tu as le baptême, la Sainte Cène, et tu as le lavement des pieds. Alors, ça serait quelque chose peut-être à pratiquer. Mais malheureusement, souvent, ceux qui pratiquent ces choses-là, eux autres, ils l'ont l'affaire. Les autres, ils l'ont pas. Alors, il y a ceux qui lavent les pieds et il y a ceux qui ne lavent pas les pieds qu'eux autres sont. Ils l'ont pas. Hein? Ils sont un peu plus bas. Il y a cet orgueil-là. Ils prennent exactement le symbole de l'humilité pour en faire un sujet de se glorifier. On rit de deux là, mais attends une minute. Je peux rire de moi aussi. Et quand tu fais de quoi? Non. Oh. Ah, il y a quelque chose dans le symbole qui parle, qui est touchant. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Mais en faire un sujet qui m'élève au-dessus des autres chrétiens qui font pas ça, ça, c'est tordu pas mal. Mais attention. Et là, on va dans la pratique. C'est quoi ça veut dire se laver les pieds? Ou laver les pieds des autres, pas se laver les pieds. Mais laver les pieds des autres, c'est quoi en pratique ça veut dire? On pourrait faire une cérémonie, le faire, mais je pense que ça a une implication qui est beaucoup plus vaste que ça. Vous savez, nous, l'Église de DDO, on l'a l'affaire. On est à Cloverdale puis on prend soin des démunis. Dans les autres églises, là, ils ont du chemin à faire. Ça ressemble à ça pas mal, hein? Nous, on a l'affaire. Puis, il y a d'autres églises qui l'ont l'affaire, puis il y en a qui ne l'ont pas. Et puis là, on a une compétition. C'est affreux. Affreux! dans les églises où nous, on a l'affaire, puis vous autres, vous ne l'avez pas. Wesh! Tu sais, les disciples, là, on n'est pas mieux que les disciples. Eux autres, ils se demandaient c'était quoi la question, là. Jésus allait mourir sur la croix, il allait donner sa vie. Puis eux autres, la préoccupation, ils sentaient que ça achevait, que ça, qu'il s'en allait, que le royaume de Dieu allait venir. Et leur préoccupation, c'était qui va être le chef le plus grand parmi nous? Qui va être assis à côté de Jésus dans son royaume le plus proche? Hein? C'était leur préoccupation, ça. Et là, Jésus leur donne vraiment... Il a pété leur ballon, si on pourrait dire. Hein? Ils étaient enflés d'orgueil. Et souvent, c'est pas... Bon, OK, je sais que je serai pas le plus grand, mais au moins, je serai pas le plus petit. Alors, hein, on n'est pas dans les plus petits. Alors, faisons attention de se comparer. Moi, je dirais que il n'y a rien de plus mortel pour une église ou des églises qui commencent à se comparer les uns les autres et on commence à se valoriser en abaissant les autres. Hein? Nous, ils l'ont, nous, on l'a l'affaire, eux, ils l'ont l'affaire. Et puis, nous, on ne l'a pas ou eux, ils l'ont pas, les affaires de même. Ça, c'est dans la vieille nature, c'est dans la chair stupide. C'est un réflexe de se comparer pour se revaloriser. Quelqu'un qui est en train de se noyer, savez-vous ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a du monde autour? Il va s'agripper, il va peser sur la tête de l'autre, prendre un peu de respire. Et je pense que c'est comme ça dans la vie. Hein? C'est comme ça au travail, c'est comme ça dans la société. La place où tu es assis aujourd'hui, ça peut en dire beaucoup. Qui parle, ça peut en dire beaucoup. Qui se tait quand les deux personnes parlent en même temps, ça peut en dire beaucoup. Quand tu marches dans un groupe, où est-ce que tu es dans? Qui cède en auto? T'as un auto qui s'en vient, là. Qui va céder? Hein? Ça se fait tous les jours, ça. T'es en ligne au marché, là. Il y a une madame qui passe en avant. T'arrives ensemble, là, madame, elle passe en avant. Pas un gros panier. C'est... Alors, on est fait de même. Si on demande de l'aide, qui s'avance? Qui recule. Et Jésus n'a pas aboli l'ordre établi. Hein? C'est lui-même qui a instauré l'autorité dans le monde. C'est Dieu qui met les personnes en autorité. Et il veut qu'on respecte les gouvernements. Il veut qu'on respecte la police. Et tout ça. Vous savez, j'avais une illustration dans une basse-cour. Wow, je suis rendu à la fin. Oh, vous avez eu mon point. Ça, c'est, il paraît que dans les oiseaux de basse-cour, il y a un ordre établi. Hein? Celui qui est le plus haut, c'est celui sur le deuxième barreau, celui sur le troisième barreau, celui qui est debout à terre, celui qui est couché à terre, et tu ne déranges pas l'ordre établi. S'il y en a un qui veut changer de barreau, ça va être la pagaille en poulailler. La guerre. Alors, ça ressemble à ça, la société humaine. Hein? Regardez au travail, au bureau, dans la société en général. Il y a un parti là, en particulier là, que les coqs commencent à, hein? commencent à bécoter. On commence à se bécoter parce que. Alors, est-ce que Jésus voulait que l'Église ressemble à ça? Non. Hein, dans Matthieu... J'avais vu un petit peu le punch. Jésus dit les chefs politiques dominent sur leur peuple. Les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, Jésus n'a pas aboli l'ordre établi. Qu'est-ce qu'il a aboli? La façon dont on donne un ticket si on est policier. La façon dont on gouverne lorsqu'on est ministre ou premier ministre ou... Ce qu'il a éliminé, c'est les abus d'autorité, les abus de pouvoir, l'orgueil qui est relié à la position et à toutes ces choses-là. C'est ça qui est néfaste. C'est pas l'autorité. L'autorité, c'est de Dieu, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi l'autorité partout. Enlever les stops, enlever les lumières, hein? Et on fait appel à la nature humaine, la bonne volonté de l'être humain, qui croit que l'être humain est bon, c'est la société qui le corrompt. Alors, enlevons toutes ces règles-là, on va avoir la liberté, puis on va avoir un monde fantastique si on n'a plus de règles. C'est vrai? Là, vous avez le résultat. Demain matin, on enlève les stops, on enlève les policiers, on enlève les règles. Puis on dit, OK, maintenant, là, chacun pour soi. Et puis, on fait appel à votre bonne volonté. Vous êtes des gens responsables. Ça, ça va être le chaos. L'anarchie, si on peut dire. Alors, Jésus n'a pas aboli l'ordre établi. Il n'a pas aboli l'autorité. Et il nous demande de respecter l'autorité, des fois, dans des situations qui sont... Hein, à l'époque, Paul, il dit que... respecter l'autorité, puis c'était Néron qui était là, ou c'était César. Alors, Jésus a aboli l'usage abusif, orgueilleux de l'autorité. Puis là, il a établi la façon dont on doit diriger. Alors ça, c'est une application, comme je disais tantôt. Est-ce que le service, la discipline du service... Si la discipline du service a pour but de m'élever au-dessus des autres, nous autres, on est bons, on aide les démunis à des déos, et puis qu'on est bon, on se pète les bretelles, puis les autres qui ne le font pas, ils n'ont pas l'affaire. Hein? Yark. On est en train d'accomplir la mission que le Seigneur nous donne pour s'enorgueillir, pour s'élever. L'esprit de compétition, hein? Il faut abolir ça. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et il y a d'autres applications à ça. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez partager? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique cette semaine de laver les pieds des autres? La parole est à vous. Ça peut être des principes, ça peut être des façons de faire. J'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui... Un acte d'humilité. Alors, c'est possible cette semaine? En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en vais sur la route, il y a un CD, il y a un piéton. Qui va gagner? Si vous êtes à Montréal, il y a une bicyclette. Peut-être que tu peux te lever aussi.
C'est intéressant que Jésus savait que le Père avait donné toutes choses en possible. Et il n'y avait rien au-dessus de lui. Il n'y avait rien au-dessus de lui qui était suprême. Et là, on peut dire qu'il y avait quelque chose. Et je suis intéressé que ce verset, vous savez, si Jésus considère qu'il y a aucune tâche facile pour lui, est-ce que moi, je vais considérer que à la hauteur de je suis, que ça, c'est trop vrai pour moi?
Ouais. Alors, je n'ai rien à gagner et je n'ai rien à perdre en posant ce geste humble-là. Ma personnalité n'est plus en jeu, mon identité, ma valeur n'est plus en jeu. je suis libre de faire la moindre petite chose. Ça, c'est un point fantastique. Je suis libre de laver les toilettes. Hein? Si on voulait comparer, laver les pieds des disciples, laver les toilettes, là. Ceux qui ont à faire l'exercice, là. Pourquoi moi? Hein? Ouais. Oui. Je peux tout faire dans la moindre petite chose. Wow. Hein? Ouais. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a, sans orgueil, on peut être fier. Il y a une fierté dans le Seigneur de faire, rendre un service, pas parce que je suis en compétition avec les autres, pas parce que j'ai de la valeur. Ma valeur n'est pas en jeu. Nathan.
Ça change un peu l'attitude qu'on peut avoir envers les employeurs, envers les personnes politiques. On est à leur service, on n'est pas en opposition à eux, on n'est pas en rébellion à eux.
Oui. Aussi, s'il y a un conflit, que je ne vais pas comme dans un affrontement pour savoir qui a raison, mais je peux exprimer humblement le problème, et souvent la personne qui est en position d'autorité, peut-être sur le coup elle va te balayer, mais tu as semé la bonne chose. Mais ma valeur n'est pas en cause. Oui, yet. Ouais. Est-ce que tout le monde a compris? Liette est en résidence et là, tu vis à tous les jours avec plein de monde qui sont différents et qui... différentes nationalités, différentes façons de faire et tu as beaucoup d'occasions de pratiquer l'humilité. Ouais.
C'est pas la marque qui avait les pieds, c'est les journaux.
Les judas.
Je suis
judas. Ah, je te comprends. Mais tu es un peu plus jeune.
C'est les
journaux. OK.
C'est les pieds du judas qui lavaient, c'est pas les pieds n'importe qui. C'est Jésus qui a pas de laver les pieds.
Oh.
Qui peut vous dire, je peux laver les pieds?
Oui.
C'est le pardon absolu.
Et il savait très bien qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de judas.
Je lave pareil.
Ouais, ouais. Wow, toute une image là. Hein? Les gens qui nous aiment pas ou qui est en compétition. Et puis, wow. Oui, Jean-François. Oui. Ouais. Un autre point que j'avais, c'était que Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est peut-être la plus petite chose. Et il allait mourir sur la croix, qui est la plus grande. Et il n'y a pas de différence. Laver les pieds de ses disciples, ou aller à la croix, c'est le même esprit de service qui est à l'œuvre. Et la motivation, c'est le bien, je cherche le bien des autres. Avant le mien, je donne ma vie pour les autres. Oui, Francis? Ah, j'ai pas compris, non. Oui. Oui. OK, alors il relie ça à à la purification, puis Jésus le fait aussi parce qu'il lave les pieds, il purifie, on a vu tantôt le texte, et puis il va purifier nos péchés sur la croix, qui est dans la même...
Quand j'étais passé à la femme, à un moment donné, Dieu nous défie par des rencontres comme ça, il y avait des revenus, la place, qui s'est bien venu à l'église, qui était ça.
Il sentait le yaourt. Ça veut dire qu'il sentait pas bon. Mais ça dépend ce qu'on fait avec.
On
change de lunettes, hein? On a des lunettes, et puis si les gens ne rentrent pas dans notre cadre, on s'élève.
La communauté où on va avoir un ministère va également nous transformer.
Ouais. C'est bien dit. Ouais. Et on a besoin. On a besoin. Parce qu'on n'est pas mieux. Hein? Qui est mieux que l'autre? Qui es-tu, toi qui te glorifies? Hein? C'est bien. On a encore 3 ou 4 minutes. Comment on va pratiquer ça cette semaine? Laver les pieds de notre voisin, de quelqu'un de la famille. OK, alors, comme je disais tantôt, il y a des grands moments, en tout cas dans ma propre vie, où je suis mort à moi-même. Des moments glorieux, que j'aurais pu me glorifier, j'étais vraiment mort. Hein? Et il y a des gens que Dieu appelle à mourir martyrs. C'est Étienne. Hein? Pourquoi est-ce que Étienne, lui, il a donné sa vie en une journée? Et toutes les autres apôtres, c'est glorieux, c'est quelque chose, hein? C'est le premier martyr. Alors, mais tous les autres disciples, eux autres, qui ont donné leur vie, sont morts à eux-mêmes pendant 30, 40, 50, 60 ans. Combien de fois par jour? Ça paraît pas. Dans des petits gestes, dans des petites morts à soi-même, ça ne paraît pas aussi glorieux que les grands exploits, comme Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Prendre la serviette, laver les pieds de ses disciples, c'est la tâche la moins élevée. Alors nous aussi, dans ce contexte-là, à tous les jours, on est en train de mourir à soi-même. Et le plus on le fait, plus, comme je disais au début, c'est un esprit de serviteur, un esprit de service qui se fait dans la liberté. Lorsque je meurs à moi-même, la première personne qui en bénéficie, c'est moi, parce que je suis libre. Je goûte à la liberté d'être délivré du moi, à satisfaire à mes besoins en premier. Et c'est une discipline qu'on va essayer de regarder ensemble, comment on va s'encourager ensemble, on veut la pratiquer ensemble, la discipline du service, et pas pour s'élever et se glorifier avec ça, mais au contraire, que ça devienne, qu'on devienne des gens libres qui sont capables de rendre des services sans que notre valeur soit en péril, je pourrais dire, ou soit enflée. Amen.